j'avais proposé de travailler sur le projet de loi. À l'époque, c'était un projet de loi qui était intitulé projet de loi, proposition de loi, pardon, puisque ça émanait de, du groupe La République En Marche et de son président Richard Ferrand à l'époque. Proposition de loi relative à la lutte, voilà, contre les fake news, contre les fausses informations. Donc je vais vous parler de cette législation, puisqu'aujourd'hui le texte à la fois la loi ordinaire et puis également une loi organique, je vais expliquer après, ont été adoptés le 22 décembre dernier. Ce que je peux commencer par dire, et ça d'une certaine façon ça sera un écho à la communication précédente, c'est que l'intitulé effectivement de la des deux propositions de loi a été modifié, puisqu'on est passé de la lutte contre les fausses informations à la lutte contre la manipulation de l'information, avec notamment comme enjeu dans les débats parlementaires la question de savoir comment on définit juridiquement une fausse information et est-ce qu'on ne va pas prendre un risque à définir juridiquement une fausse information. Le contexte de l'adoption de ces deux lois, c'est, si je reprends ici à la fois les propositions de loi et puis l'avis du Conseil d'État, c'est l'actualité récente et notamment les fake news ou les fausses informations qui auraient circulé pendant l'élection présidentielle de 2017, l'éventuelle ou la possible intervention de la Russie dans la campagne électorale par la diffusion d'informations qui auraient aussi influencé le scrutin de l'élection présidentielle états-unienne. Et le Conseil d'État lui-même, dans son avis, évoque l'existence de stratégies délibérées d'acteurs, y compris étrangers, qui ont cherché à influer sur le cours normal des processus électoraux. Donc ça, c'est le premier élément de contexte. Le second élément, deuxième élément de contexte, c'est l'utilisation du numérique, ou en tout cas le développement du numérique pour réaliser ce travail de diffusion de fausses informations. Là aussi, c'est bien identifié dans les deux textes. Notamment le rôle des réseaux sociaux. Et puis évidemment, le troisième élément de contexte, puisque nous sommes sous la Ve République, ce sont les vœux du président de la République, je crois, le 3 janvier 2018, où le président Macron avait fixé le cadre de ce qu'il entendait voir advenir comme législation. Et c'est à la suite donc des vœux du président de la République à la presse, en janvier 2018, que le député Ferrand a déposé donc à la fois cette proposition de loi et ordinaire, si on peut dire, et puis la proposition de loi organique de lutte contre les fausses informations. Alors pourquoi il y a deux textes? J'explique rapidement. Parce qu'il s'agit de modifier, bien sûr, la législation, je dirais, ordinaire, et notamment le code électoral et puis la loi de 1986 sur la liberté de communication. Mais puisque la législation va s'appliquer aux périodes électorales et à la lutte finalement contre la diffusion de fausses informations en période électorale, et que parmi les scrutins électoraux qui sont visés ou qui entrent dans le champ d'application de la loi, il y a l'élection présidentielle, eh bien juridiquement il faut une loi organique, puisqu'en fait il existe dans le droit positif une loi organique qui vient régir l'élection présidentielle en complément de la Constitution. L'examen de ces deux textes, puisque c'était une proposition de loi à l'origine, et vous le savez ou pas, mais en tout cas, c'est le gouvernement qui est maître du temps parlementaire, et les députés ou les sénateurs n'ont que peu de pouvoir en la matière. Mais étant donné que le président souhaitait que les choses aillent quand même vite, puisqu'il y aura des élections européennes bientôt, puis que finalement la présidentielle de 2022, c'est quand même assez proche, l'examen de ces deux textes est allé assez rapidement, alors que souvent les propositions de loi, bien, elles restent assez enterrées et ce sont surtout les projets du gouvernement qui sont examinés en premier lieu. Ce qui a caractérisé aussi l'examen de ces deux textes, ça a été une opposition entre l'Assemblée nationale et le Sénat, puisqu'au Sénat il y a eu un rejet de ces propositions, un refus d'examiner ces deux textes. Et donc, il a fallu recourir à la procédure parlementaire prévue par les institutions, hein, enfin par la Constitution plus exactement, la commission mixte paritaire, qui n'a pas permis d'aboutir à un accord. Donc, le désaccord a été maintenu entre les représentants du Sénat et les représentants de l'Assemblée nationale. Et c'est finalement le gouvernement qui a donné le dernier mot à l'Assemblée nationale. Donc, on voit bien quand même, parce qu'il faut que ça soit assez clair à mon avis, que ces deux textes ne sont pas le fruit d'un consensus politique. C'est le fruit d'une volonté présidentielle soutenue par la seule majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel a été saisi et il a rendu deux décisions dans lesquelles il a déclaré conforme à la Constitution les deux textes, sous une réserve quand même dont je ferai état plus tard. Et puis les deux textes ont été publiés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, pour que les choses soient assez... pour essayer de ne pas faire de fausses informations, ou pour essayer de ne pas vous manipuler dans la diffusion d'informations que je vais donner, je vais essayer dans un premier temps de montrer quel est le contenu des deux textes, et puis ensuite d'interpréter pour que essayer de faire la part des choses entre information et interprétation. Alors d'abord, qu'en est-il du dispositif législatif qui a été adopté via ces deux textes ? Alors il y a quatre volets que je vais successivement passer en revue. Premier volet, c'est la lutte contre la manipulation, donc un certain nombre de dispositions législatives de lutte contre la manipulation de l'information en période électorale. Le deuxième volet, c'est la modification de la loi de 1986 qu'on avait appelée la loi Léotard, qui est relative à la liberté de communication, et dont on va voir qu'en fait, tout l'enjeu ici, c'est de renforcer les pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour essayer de veiller justement à empêcher la diffusion de fausses informations. Troisième volet, c'est la création d'obligations à la charge des plateformes numériques pour participer à la lutte contre la manipulation de l'information. Et le quatrième volet concerne l'éducation aux médias et à l'information. Bon, il y a un cinquième volet, mais qui concerne l'application de la loi dans l'outre-mer, qu'on va laisser ici de côté. Donc je vais passer en revue ces quatre aspects. Alors, premier volet, donc c'est l'ensemble des dispositions qui sont consacrées à la lutte contre la manipulation de l'information en période électorale. Donc ici, c'est en fait une série d'articles qui modifient le code électoral avec deux articles en particulier. Le premier qui justement oblige les opérateurs de plateformes en ligne à fournir une information transparente pendant les campagnes électorales des élections générales. Et puis le second, c'est la création d'une procédure judiciaire pour permettre à des personnes qui finalement seraient victimes de la diffusion de fausses informations de pouvoir recourir à un juge pour essayer de faire cesser la diffusion de ces fausses informations. Alors si je m'arrête rapidement sur ces deux aspects, concernant l'obligation de transparence renforcée, on va dire, pour les plateformes numériques, que prévoit la loi ? Eh bien, elle prévoit que ces plateformes numériques vont devoir délivrer ce que la loi appelle une information, en tout cas les plateformes vont devoir fournir aux utilisateurs de plateformes une information loyale, claire et transparente, et notamment sur les personnes qui participent justement à la promotion de certains contenus d'information qui sont en lien avec la campagne électorale. Donc des personnes qui, à un titre ou à un autre, veulent diffuser de l'information. Donc il faut faire de la transparence, il faut que les plateformes numériques disent qui, finalement, a payé pour diffuser de l'information. Les plateformes doivent également rendre public le montant des rémunérations qu'elles ont reçues en contrepartie donc, de la promotion de ces informations. Et puis, par ailleurs, elles doivent également consigner, en quelque sorte, dans un registre qui sera mis à la disposition du public, les informations en question. Le deuxième aspect, c'est la procédure judiciaire, le référé judiciaire qui est créé par la loi. Alors, ce référé judiciaire, c'est-à-dire le recours à un juge qui siégera au tribunal de grande instance, le recours au juge n'est utilisable que pendant une période limitée, dans les 3 mois qui précèdent l'élection, le scrutin, et le recours au juge ne peut être activé que dans l'hypothèse où une personne se plaint finalement de la diffusion de fausses informations ou en tout cas le texte est un peu plus précis puisqu'il parle d'allégations ou d'imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin. Autrement dit, une information ou quelque chose qui s'apparente à une information qui serait susceptible de perturber ce qu'on appelle la sincérité du scrutin, notamment sa transparence et finalement le caractère démocratique de l'élection. Mais il ne suffit pas qu'il y ait éventuellement une information inexacte ou trompeuse. Il faut en plus qu'il y ait diffusion artificielle ou automatisée et massive de l'information. Donc on voit déjà qu'il y a des conditions qui doivent être remplies pour pouvoir recourir utilement à ce juge. Le Conseil constitutionnel est tout de même venu apporter une précision parce que tout le monde comprend bien qu'à partir du moment où on pourrait recourir à un juge pour faire cesser la diffusion d'une information dans le cadre d'une campagne électorale, il y a un certain risque de faire diffuser, de faire censurer, pardon, ou en tout cas de faire interdire la diffusion d'informations qui ne seraient peut-être pas des fausses informations. Alors le Conseil constitutionnel nous dit que les fameuses allégations ou imputations qui sont visées par la loi ne recouvrent pas les opinions, par exemple, ne recouvre pas non plus les parodies. Donc, par exemple, ce que Romain a cité tout à l'heure, le Gorafi, ça ne pourrait pas être interdit. La diffusion d'une information parodique par le Gorafi ne pourrait pas être sanctionnée par le juge. Ni même, ça ne recouvre pas non plus les inexactitudes partielles ou les simples exagérations. Vous vous rappelez, par exemple, pendant la campagne présidentielle, dans la dernière campagne, donc c'est vrai qu'Emmanuel Macron a été la cible, mais il y avait une autre cible. C'était Jean-Luc Mélenchon. Et vous savez que dans la dernière semaine de campagne, l'argument massu pour dissuader du vote Jean-Luc Mélenchon, c'était de dire « Oui, Jean-Luc Mélenchon souhaite que la France adhère à l'ALBA ». Personne n'avait jamais entendu parler de l'ALBA, qui est l'alliance bolivarienne, je ne sais plus quoi. Et donc, sous-entendu, ça voulait dire que Jean-Luc Mélenchon voulait que la France quitte l'Union européenne pour adhérer à une organisation sud-américaine. Donc, évidemment, il y avait quelque chose relatif à l'ALBA dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, mais évidemment, ça n'avait pas la portée que les médias ont bien voulu lui accorder. Donc, ce type d'exagération dans la diffusion d'une information ne tomberait pas non plus sous le coup de l'allégation trompeuse ou inexacte qu'on pourrait faire censurer ou interdire devant un juge. Un petit point quand même sur ce qu'on pourrait appeler le champ d'application de la loi. Le champ d'application de la loi, il est finalement restreint. D'abord, il ne s'applique pas à toutes les élections. Il s'applique qu'aux élections générales, c'est-à-dire à la fois les élections nationales, les élections européennes, les élections nationales, pardon, présidentielles, législatives, sénatoriales, les élections européennes et les opérations référendaires. Mais les élections locales ne sont pas concernées. Par ailleurs, le champ d'application, je dirais, temporel de la loi est lui-même restreint, puisque je l'ai dit, c'est simplement pendant les 3 mois qui précèdent le scrutin. Donc ce qui veut dire que si on a diffusé de la fausse information antérieurement, ça compte pas. Enfin, c'est pas que ça compte pas, mais c'est-à-dire que judiciairement, on ne pourra pas obtenir quoi que ce soit devant le juge des référés. Et puis, encore, ce qu'on peut ajouter, c'est que les plateformes numériques qui sont astreintes aux obligations que j'ai citées, ce ne sont pas toutes les plateformes numériques, ce sont les plus importantes, celles dont la loi nous dit que l'activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français. Et donc, il y a là aussi un problème dans l'application de la loi qui est que, alors à part, bon, c'est vrai que les États-Unis ont une grande capacité à adopter eux-mêmes des lois auxquelles ils donnent un effet qu'on appelle extraterritorial, mais pour la loi française, eh bien, elle n'aura qu'un effet territorial. Autrement dit, s'il y a de la diffusion de fausses informations sur des sites Internet, par exemple, qui seraient des sites Internet à l'étranger, comment est-ce que le juge se considérera comme compétent pour trancher la question qui sera posée devant lui? Est-ce que même la question, ou en tout cas la procédure qui sera amené devant lui, sera recevable devant lui, puisqu'il s'agira d'un juge français appliquant une loi française sur le territoire français, mais devant peut-être juger des faits qui se seraient déroulés ou dont la production aurait été extra-française, en quelque sorte. Alors, ceci étant, puisque la loi fait les choses bien, le législateur fait les choses bien, une fois qu'il a prévu le dispositif, il y a des sanctions pénales en cas de manquement, hein, en cas d'infraction, notamment aux obligations des plateformes numériques, il y a un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, ce qui, au fond, n'est pas beaucoup. Alors, deuxième point du dispositif législatif, c'est ce que je disais, c'est la modification de la loi de 1986. Alors, cette loi de 1986, elle est d'ailleurs considérée comme une loi assez importante en matière de communication, puisque c'est elle qui, alors à l'époque, on n'appelait pas ça le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais c'est elle qui va finalement permettre permet d'encadrer toute l'activité de régulation du secteur de communication, finalement, audiovisuel et puis ultérieurement également autour des réseaux sociaux. Donc, vous savez peut-être ou pas, là encore, mais que c'est le CSA, par exemple, qui, par le biais d'autorisations administratives, permet à des diffuseurs d'utiliser les ondes hertziennes, radio, télé, pour ensuite diffuser des émissions, évidemment, télévisées, radiophoniques, et même maintenant, dans la loi de 1986, qui a été modifiée depuis, il y a des dispositions qui donnent compétence au CSA pour encadrer la diffusion de télévision, par exemple, non hertzienne. Alors, qu'apporte la loi de décembre 2018 par rapport à ces pouvoirs du CSA et à cette loi de 1986. Alors, de façon générale, parce que je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais de façon générale, la loi donne un pouvoir de refus de ce qu'on pourrait appeler le conventionnement. C'est-à-dire qu'elle va... Elle donne au CSA la possibilité de refuser une demande de contrat, de convention concernant la diffusion d'un service de radio ou de télévision. Et notamment, alors c'est là où il y a un rapport avec la question de la Russie, en tout cas de façon implicite, notamment lorsque la demande émane d'entreprises, finalement, qui ont des liens avec un État étranger, soit contrôlées par un État étranger, dit la loi, soit placées sous l'influence d'un État étranger. Donc ça veut dire qu'il y a un pouvoir ici de contrôle a priori, qui est confié à une instance de régulation, en l'occurrence le CSA, pour éventuellement empêcher des diffuseurs qui seraient contrôlés par des États étrangers de diffuser. Alors ici, c'est diffuser en général, ce n'est pas spécialement diffuser de la fausse information. Donc ça, c'est un premier point. Et puis par ailleurs, les autres pouvoirs du CSA, puisqu'il les a déjà, mais c'est simplement un élargissement là aussi du champ d'application de ces pouvoirs. Le CSA a des pouvoirs de mise en demeure, par exemple, donc dans l'hypothèse où, il y a Sputnik notamment, il y a Russia Today, si jamais ces services de diffusion franchissaient la ligne en matière de diffusion de fausses informations, ils pourraient, par exemple, être mis en demeure par le CSA. Ou bien le CSA pourrait également résilier la convention qui aurait été conclue par la société placée sous le contrôle de l'État ou sous l'influence de l'État étranger. Ou même le CSA peut saisir un juge pour faire finalement sanctionner la personne qui est responsable des manquements aux obligations législatives. Donc le troisième volet, là, ça c'était le deuxième volet. Le troisième volet, c'est les obligations ici des plateformes numériques en matière de lutte contre la manipulation de l'information, mais en général, c'est-à-dire on est sorti du contexte électoral. Donc on est ici dans ce que Romain évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire finalement une forme de délégation par la puissance publique, par l'État, à une personne privée, à des personnes privées, d'un rôle de gendarme finalement, hein, en matière de contrôle de la diffusion de l'information. Alors que doivent faire ces plateformes numériques ? Eh bien, de façon générale, déjà, elles doivent participer à la lutte contre la manipulation de l'information. Par quel biais ? Alors, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. D'abord, quelque chose qui s'apparente à une forme de transparence pour les utilisateurs, c'est-à-dire que les utilisateurs doivent pouvoir faire remonter les éventuelles fausses informations qu'ils auraient constatées, par exemple, sur les réseaux sociaux. Mais les plateformes numériques doivent faire d'autres choses. Elles doivent rendre transparentes leurs algorithmes. Elles doivent également, par exemple, lutter contre les comptes qui propagent massivement des fausses informations. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire, puisque la loi ne le dit pas. La loi utilise cette expression, hein, que je viens de citer, la lutte contre les comptes propageant massivement des fausses informations. Mais on imagine que ça peut aller d'une espèce de mise en demeure, par exemple, jusqu'à la suppression du compte. Les plateformes doivent, je ne cite pas tout, mais les plateformes doivent également participer à l'éducation aux médias et à l'information. Et toutes les mesures que les plateformes numériques prennent doivent être rendues publiques. Le législateur, alors là c'est plutôt un vœu pieux qu'autre chose, manifestement, puisque le législateur prévoit la possibilité que des accords de coopération, là je cite aussi, hein, relatifs à la lutte contre la diffusion de fausses informations, soient signés entre les plateformes numériques d'un côté, et puis de l'autre, eh bien, les agences de presse, les éditeurs de publications de presse, les annonceurs, les sociétés de journalistes, ou même, dit le texte, toute autre organisation susceptible de contribuer à la lutte. Dernier volet de la loi, et j'en aurai fini avec la présentation du dispositif législatif. Dernier volet de la loi, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Je dirais que c'est la portion congrue. Hein, il y a deux articles et ça fait à tout casser 10 lignes. Qu'est-ce qui est en substance, qu'est-ce qui est retenu ? Eh bien, ce sont des modifications du code de l'éducation pour inscrire dans les cours d'enseignement moral et civique, eh bien, une éducation aux médias et à l'information. Il s'agit de protéger finalement l'enfant dans l'utilisation d'Internet et des services de communication en ligne. Il s'agit aussi, et là c'est étonnant d'ailleurs la formulation qui est retenue par la loi, il s'agit d'informer donc les jeunes, les élèves, et même plus précisément les collégiens, parce qu'en fait la disposition se rattache aux dispositions applicables au collège, pas à l'école élémentaire ni au lycée. Le texte donc parle d'informer sur les moyens de vérifier la fiabilité d'une information. La loi ne dit pas former sur les moyens de vérifier la fiabilité d'une information, mais informer sur le dispositif législatif. Livrer un regard critique sur ce dispositif législatif. Parce que finalement, il ne s'agit pas de nier qu'il y a une réalité du développement des fausses informations, ni même nier la réalité du rôle que des États étrangers peuvent prendre dans la diffusion de ces fausses informations, dans une volonté, par exemple, d'influencer le résultat d'élections à l'étranger. Donc il n'en reste pas moins que c'est un dispositif législatif qui est critiquable, parce que d'un côté, il me semble qu'il est peut-être inutile et même insuffisant, et puis que d'un autre côté, finalement, je dirais, c'est un texte de propagande et c'est un texte qui invite à la censure. Alors, quelques mots sur le fait que c'est un texte inutile et insuffisant. C'est un texte inutile sur le plan juridique parce qu'en réalité, dans le droit positif, et le Conseil d'État l'avait souligné, il existe déjà des dispositions légales qui permettent de lutter contre la diffusion de fausses informations. Je vous cite une disposition parmi d'autres, c'est le code électoral, qui punit d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, de bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter. Voilà, ça c'est un exemple. J'ajouterais que c'est un texte un peu inutile parce que il me semble vain. Je suis assez d'accord avec cette idée que c'est un peu poursuivre une chimère que de prétendre lutter contre les fausses informations et même plus contre la manipulation de l'information. Très récemment, par exemple, j'ai appris que Staline avait menti aux Alliés lorsqu'il leur a dit que non, il ne savait pas ce qu'était devenu Hitler, alors qu'en réalité, les services secrets avaient trouvé la dépouille d'Hitler dans son bunker, qu'ils avaient pris la dépouille, l'avaient mise à l'extérieur de Berlin, et puis il avait laissé les services secrets occidentaux courir après Hitler pendant un certain temps. Le texte me paraît aussi inutile parce que, en matière de liberté de communication, puisque si on se place du point de vue juridique, c'est bien ici qu'on se situe, eh bien l'exercice de la liberté, je dirais qu'il est dual. Il est à la fois du côté du diffuseur, de l'émetteur de l'information, mais il est également du côté du récepteur. Et le récepteur, précisément, est libre de choisir l'outil sur lequel il va s'informer et même le type d'information qu'il va aller chercher dans l'outil qu'il a choisi. C'est-à-dire qu'on peut tous dire qu'on lit Le Monde, mais si on ne lit que les pages tiercées et sport, finalement, ça ne rend pas vraiment compte de ce qu'on retient de la lecture du Monde. Alors c'est aussi un texte insuffisant parce que, ce que j'ai dit sur le fait que les périodes non comprises dans les campagnes électorales ne sont pas réellement couvertes, mais ce qui me semble quand même assez important et sur lequel le législateur n'a pas voulu se pencher, c'est qu'en réalité, dans une société démocratique comme la nôtre, ce qui est très important, c'est le pluralisme des courants d'opinion. Tous les juges le disent, la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel, si on prend juste cela. Mais en réalité, ce pluralisme des courants d'opinion est malmené quotidiennement, pas uniquement par la diffusion de fausses informations, mais par la concentration des médias. Il y a un article, enfin, il y a un document tout à fait révélateur qu'a produit Le Monde diplomatique, où on voit qu'en réalité, il y a une poignée de riches familles d'industriels qui détiennent 80% des médias dans le pays. Je parle de la France ici. Alors, évidemment, on peut penser que les industriels font un placement financier quand ils achètent un média, mais quand on connaît l'économie de la presse, par exemple la presse écrite, la presse audiovisuelle, c'est peut-être autre chose, mais en tout cas pour la presse écrite, on imagine bien que les industriels ne sont pas des philanthropes. Hein, et on a un certain nombre d'exemples où on voit, je pense au cas de Dupont-Aignan, Dassault, Le Figaro, hein, il y a eu des affaires aussi pendant la campagne présidentielle. Il me semble qu'il y a en fait un paradoxe parce que d'un côté, c'est une loi qui manifeste une volonté de lutter contre la manipulation de l'information qui apparaît via les réseaux sociaux parce que c'est ça qui est ciblé, alors que ça laisse de côté d'autres aspects de manipulation de l'information, alors même que ces réseaux sociaux sont apparus comme un moyen de contourner la manipulation de l'information par les médias classiques au service de certains pouvoirs, que ce soit des pouvoirs économiques ou des pouvoirs d'État. Pourquoi les gilets jaunes, qui étaient évoqués tout à l'heure, s'informent sur les réseaux sociaux? C'est qu'ils n'ont absolument pas confiance dans les médias, qui sont les médias classiques auxquels nous autres, on était plutôt habitués avant que n'explosent les réseaux sociaux. Pourquoi c'est un texte de propagande? Eh bien, parce que finalement, je ne nie pas la volonté louable de préserver la société démocratique de la déstabilisation politique. Mais il me semble qu'en réalité, on est ici dans... un député avait mis le doigt sur ce point-là, mais on est ici dans un contexte particulier qui est une bataille, en fait, géopolitique entre des États qui cherchent à accroître leur pouvoir d'influence et qui ont compris que faire la guerre militaire n'a pas forcément toujours d'utilité, mais qu'il y a d'autres moyens d'influer sur les opinions et surtout d'essayer d'accroître leur position géopolitique dans le monde. Et d'ailleurs, Jacques Chirac lui-même ne s'en était pas caché lorsqu'il avait créé, il avait lancé la création de la chaîne France 24. Hein. C'était bien un outil de diffusion de la francophonie et puis de l'influence française. Donc, il y a une signification politique à ce texte, ou à ces deux textes, qui est de, alors pardon, ça c'est un deuxième plan, une signification politique également, qui est de placer finalement la France dans le camp des régimes libéraux par rapport au régime totalitaire, c'est-à-dire plutôt du côté des États-Unis qui sont dans le camp du libéralisme, à l'opposé évidemment de la Russie qui, elle, est dans le camp du totalitarisme. Donc, ce qui semble quand même un petit peu manichéen, ceci étant. Autre problème qui se pose, pour lequel je ne donnerai pas de réponse, est-ce que finalement il n'est pas là aussi vain de chercher à faire établir la vérité par la loi, par le juge, par des procédés et par des procédures juridiques? Ce n'est pas la première fois que le législateur, d'ailleurs, se fourvoie, puisque, rappelez-vous, la loi du 23 février 2005, je cite l'intitulé exact, portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, que disait-elle dans son article 4? Eh bien, elle énonçait que les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu'elle mérite. Mais surtout pour les programmes scolaires, il fallait que ces programmes reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et au sacrifice des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. Donc on le voit bien, ces deux lois du 22 décembre 2018 s'inscrivent finalement dans un processus qui n'est peut-être pas le plus efficace pour lutter contre la manipulation de l'information et contre les fausses nouvelles. Je vous remercie.